C'est l'affaire judiciaire la plus mystérieuse des 40 dernières années. Qui a tué le petit Grégory ce 16 octobre 1984 ? Des années d'enquête et de silence. Et cette semaine, cette décision inattendue de la Cour d'appel de Dijon. Les juges demandent de nouvelles analyses. On va de nouveau faire des recherches ADN, mais aussi tenter de faire parler les enregistrements audio du fameux corbeau. Ces nouvelles investigations peuvent-elles permettre de connaître enfin la vérité ? Pourquoi cette décision des juges ? Toutes les explications avec nos invités dans un instant, mais d'abord, sur quoi vont porter exactement ces analyses ? Le détail avec Elisa Fradin.
La Vologne, 16 octobre 1984. Le corps du petit Grégory Villemain vient d'être repêché dans la rivière. Son anorak, son pantalon et les cordelettes qui ont servi à l'attacher sont mis sous scellés. De l'ADN a été retrouvé sur ces objets. En s'appuyant sur les progrès de la science, les experts vont pouvoir réaliser de nouvelles comparaisons entre ces traces ADN et les protagonistes du dossier.
Certains ADN et mélanges d'ADN avaient été identifiés, mais tous n'ont pas fait l'objet de comparaisons avec certaines personnes. Donc c'est simplement un complément qui a été sollicité.
Mais l'espoir des parents de Grégory réside surtout dans une étude de faisabilité. Les enquêteurs doivent déterminer si une empreinte vocale peut être identifiée sur les enregistrements audio du ou des corbeaux qui leur téléphonaient à l'époque du meurtre.
La question qu'on se pose, c'est de savoir si, justement, à partir des enregistrements du corbeau, on peut, allez, je ne sais pas si le terme est exact, mais isoler la voix, retrouver la voix, pour pouvoir faire des comparaisons.
Complot familial, vengeance d'un tiers, parviendra-t-on enfin à identifier le ou les assassins de Grégory Villemain ? Presque 40 ans après les faits, le président de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Dijon semble toujours y croire.
Et invitée d'affaires suivantes, Catherine Tardrou, bonjour, merci d'être avec nous, ancienne grand reporter au Parisien, autrice notamment de Grégory, le dossier de l'affaire aux éditions Michel Lafon. Carrère, vous suivez cette affaire depuis le tout début. On va évidemment essayer d'y voir un peu plus clair avec vous sur les nouveaux éléments de la semaine et évidemment sur cette histoire. Sébastien Aguilar, bonjour, merci également d'être avec nous. Vous êtes policier scientifique, vous êtes par ailleurs porte-parole du syndicat du SNIPAT. Avant de venir dans le détail des analyses qui vont être conduites et vous allez nous expliquer tout cela dans le détail, il faut peut-être dire un mot des parents du petit Grégory qui ont demandé à la justice de relancer ces enquêtes. Catherine Tardou, c'est l'histoire de deux parents qui ne lâchent pas, ne veulent pas abandonner l'espoir de savoir la vérité.
Je pense qu'ils veulent savoir la vérité. Je pense qu'ils veulent savoir exactement ce qui est arrivé à leur petit garçon. Et on ne se rend pas compte, je veux dire, de ce qu'ont souffert ses parents. Surtout quand Christine a été accusée d'avoir tué son propre fils. Enfin, c'est épouvantable ce qui leur est arrivé. Alors apparemment, moi je n'ai pas de contact du tout avec eux, mais apparemment ils vont bien. Je veux dire, ça se passe bien. Ils ont d'autres enfants qui sont grands maintenant, qui ont fait d'excellentes études. Je pense même peut-être que Jean-Marie est à la retraite maintenant. Peut-être pas quand même, pas tout à fait. Et je crois qu'ils vont plutôt bien, mais ils veulent savoir.
Pardon Catherine, mais en tuant Bernard Laroche, est-ce que Monsieur Villemain, le père de Grégory, je vais y arriver, Jean-Marie Villemain, est-ce qu'il n'a pas tué la vérité ou une partie de la vérité ?
Non, je ne crois pas. Je veux dire, moi, je ne sais pas si je n'ai pas d'opinion sur la culpabilité ou l'innocence de Bernard Laroche, mais je pense que si l'instruction avait été menée d'une manière rigoureuse, on aurait dû trouver cet assassin. Tout le monde sait que l'instruction, dès le départ, a été une catastrophe.
Et toute la question est donc de savoir si justement on peut rattraper cette catastrophe. Ça, c'est une grande inconnue. On va parler des tests ADN qui vont être faits. Pour qu'on soit précise peut-être, Catherine, ces tests ADN, sur quoi vont-ils être faits ? Les cordelettes, il faut rappeler, l'anorak, les cordelettes, tout cela ?
Oui, alors d'après ce que j'ai compris, on va refaire des analyses ADN, de recherche ADN sur les enveloppes du courrier du corbeau, sur l'anorak et sur les cordelettes qui avaient été retrouvées.
Cordelettes qui tenaient le petit garçon.
Voilà, qui tenaient le petit garçon.
Sébastien, refaire des analyses ADN, là il faut que vous nous expliquiez parce qu'il y en a déjà eu. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus aujourd'hui ?
Alors, déjà, depuis donc les dernières analyses génétiques qui ont été faites datent de 2009 et 2011, donc sous l'impulsion de l'École des sciences criminelles de Lausanne. Depuis donc, on va dire 10-15 ans, on a une nouvelle technique au niveau de la génétique qui est utilisée, qui s'appelle l'analyse d'ADN haut débit.
Ouais.
Donc l'analyse NGS, donc nouvelle génération, qui va permettre de d'analyser donc l'ADN sur des petits fragments donc de l'ADN, mais sur plusieurs morceaux, donc des centaines voire des milliers de fragments, contrairement à l'ADN on va dire classique où on analyse que une dizaine de fragments. Donc en fait, au niveau de l'ADN, on a énormément d'ADN partiel, mélangé, contaminé dans cette affaire.
Oui.
Peut-être que justement l'analyse haut débit pourrait permettre d'avoir un profil génétique exploitable qui pourrait être comparé.
Ça veut dire que là, contrairement à ce qui a pu avoir eu lieu par le passé, ça pourrait matcher avec l'ADN de quelqu'un, dire vraiment, oui, il y a l'ADN de telle personne sur la cordelette, sur l'anorak.
Alors, les chances sont quand même infimes parce qu'on sait que sur la scène de crime, il y a eu énormément de contamination. En 1984, on n'avait pas la connaissance actuelle sur tout ce qui est génétique. Donc, on le voit sur les images, on n'a pas de combinaison, on n'a pas de masque.
Ouais.
Les scellés ont été trimballés d'enquêteur en enquêteur. Les experts n'ont pas pris les précautions nécessaires. Donc, sur ces scellés-là, on a énormément de contamination. On a également des dégradations donc de traces. Donc en fait, aujourd'hui, on va essayer de, avec ce qui reste au niveau des éléments matériels, parce qu'il faut savoir que quand vous faites une analyse génétique, on appelle ça une analyse destructive. Donc en fait, quand vous avez un objet, vous allez soit utiliser un écouvillon donc de type ouais. coton-tige, en récupérant un maximum d'éléments biologiques mm-hmm. dessus, soit avec l'accord du magistrat, vous allez demander à faire des éléments donc destructifs, à récupérer, on va dire, par exemple, un timbre, vous allez l'utiliser quasiment dans sa totalité, voire la moitié, et donc vous n'avez plus la possibilité de faire des analyses ultérieures. Donc aujourd'hui, en fait, les magistrats vont essayer de voir, avec le peu d'éléments matériels qui restent, qu'est-ce qu'on est capable de faire aujourd'hui.
Alors, il y avait eu Sébastien, mais c'est vrai que bon, on s'est pas forcément très étendu là-dessus, mais en 2017, je crois, il y a eu de nouvelles analyses qui ont été faites par le laboratoire du professeur Christian Doutremepuiche, qu'on avait reçu dans l'affaire suivante, pas sur ce sujet, et qui avait coûté très cher ces analyses. Et il y a eu discussion entre la présidente de la Chambre de l'instruction, qui faisait office de juge, donc qui reprenait le dossier, et le procureur général Jean-Marie Bonnet de Dijon, qui avait dit non, ça coûte trop cher, on le fera pas. Ça a été fait quand même, ça a coûté 620 000 euros. Donc des prélèvements sur chaque centimètre carré de la doudoune que portait Grégory, son pantalon, ses chaussures, les cordelettes je crois aussi. Donc ça veut dire que ça a encore contaminé et abîmé les vêtements, les scellés.
Oui, parce qu'en fait, vous allez justement, quand vous dites centimètre carré par centimètre carré, c'est vraiment le cas. Donc, on va découper vraiment cet anorak, ces cordelettes. Et en fait, à la fin, il va rester quasiment plus rien. Donc, il faut juste savoir avec, est-ce qu'aujourd'hui, on conserve encore des éléments en espérant que dans le futur, on puisse analyser ces traces-là? Ou est-ce qu'aujourd'hui, on utilise la quasi-totalité ouais. des éléments qu'on a et on lance absolument tout ce qu'on peut lancer?
On peut imaginer que si les juges acceptent de faire ces analyses, c'est qu'ils ont le bon espoir qu'on puisse en tirer quelque chose. C'est au moins l'hypothèse
oui,
qu'on peut formuler.
Mais il faut savoir aussi que les magistrats du siège ou du parquet sont en relation, on va dire, constante avec les experts, soit ouais. de l'IRCGN, soit du Service national de la police scientifique à Écully. On a des collèges d'experts qui sont là justement pour orienter ces magistrats-là, en disant, ben voilà, depuis quelques années, on utilise telle ou telle méthode. Éventuellement, avec ce que vous avez comme élément matériel, on est capable peut-être d'avancer scientifiquement sur ces dossiers.
D'où ces nouvelles analyses. On va essayer de voir si cet ADN match, Catherine, avec des gens qui sont déjà dans le dossier.
Oui, vraisemblablement, puisque parce que cette affaire peut au fond être une affaire de famille.
On a le sentiment donc, que c'est ça.
On a le sentiment que c'est une affaire de famille. Donc, on va comparer, on va voir si par hasard, par preuve scientifique, il y aurait des traces des gens qui sont déjà dans le dossier.
Votre sentiment, parce qu'effectivement, cet ADN va être comparé avec les gens qui sont dans le dossier, c'est que la vérité, elle est là, elle est dans ces gens autour du petit Grégory.
Moi, c'est ce que je pense, oui. La solution de ce crime, de ce meurtre abominable, de cet assassinat, est dans l'entourage de qui je ne sais pas, et je ne permettrai pas de le dire. Mais je pense que c'est effectivement dans un cercle relativement proche des époux Villemain.
Il y a un autre élément qui va peut-être être analysés, ce sont les fameux enregistrements audio du corbeau. Je vous propose qu'on réécoute un extrait de ces fameux appels qui ont été passés notamment aux parents du petit Grégory quelques jours seulement après la mort du petit Grégory. Ces appels, évidemment, ils sont au cœur de l'enquête depuis très longtemps. Là, on va mener, vous nous expliquez Sébastien, une étude de faisabilité pour savoir si on pourrait déterminer la voix de la personne qui parle.
Alors, en fait, ce qu'on va regarder déjà, c'est si ces traces donc, vocales sont exploitables. Donc, la dernière fois qu'on a utilisé donc, ces techniques-là, c'était en 2010. Donc, il faut savoir entre 2010 et 2024, donc, quelles sont les techniques qui ont avancé. On a notamment l'intelligence artificielle qui a permis d'avancer donc, sur le sujet. On a des traces vocales qui datent il y a 40 ans, de très mauvaise qualité. On l'entend très bien là, avec un bruit de fond, et surtout avec une personne qui travestit sa voix. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué d'un point de vue criminalistique. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est déjà savoir est-ce que ces éléments-là sont exploitables. S'ils sont exploitables, est-ce qu'on peut les comparer ? Il ne faut pas oublier aussi que ce qu'on fait généralement quand on est enquêteur ou dans la police scientifique, c'est de comparer des traces entre elles. Donc là, les enquêteurs, ce qu'ils peuvent faire, c'est en fait comparer les différents audios qu'on a dans cette affaire, savoir est-ce qu'on a une seule et même personne, est-ce qu'on a des personnes différentes. Donc déjà, ça, c'est dans un premier temps. Et ensuite, voir s'il est possible justement donc, de comparer, de faire un rapprochement, parce qu'on n'identifie pas formellement avec une trace vocale. C'est pour ça qu'on ne parle pas d'empreinte vocale, mais de trace vocale. Et donc, on va comparer donc, ces audios avec les audios de l'époque, donc de toutes les personnes qui ont participé donc, à cette enquête et qui sont les différents protagonistes, avec justement les enregistrements liés aux interventions télévisées ou radio.
Alors, même question que pour l'ADN qu'on vous posait avec Philippe tout à l'heure. Est-ce que l'enregistrement, c'est des enregistrements magnétiques, hein, à l'époque, c'est de la bande. Est-ce que ça se dégrade ? Première question. Deuxième question, est-ce qu'on les repasse sur un support numérique pour les garder ? Puis même troisième question, et si on les passe sur du numérique, est-ce qu'on a tous les bruits de fond ? Est-ce qu'on garde tout ? Est-ce qu'on peut décomposer, comme on le faisait avec du magnétique, les sons, la voix, les bruits qui sont derrière, une musique, un carillon qui sonne.
Alors forcément, à chaque fois que vous allez donc manipuler ces objets-là, donc au niveau magnétique, mais aussi quand vous allez les transférer au niveau numérique, vous allez perdre forcément des informations. Donc c'est très difficile, on va dire, tout à l'heure on parlait d'isoler la voix d'un échantillon. Là, on a un prélèvement donc sonore qui est extrêmement altéré, de qualité vraiment médiocre, et on l'entend, donc une voix qui est travestie. Donc c'est extrêmement compliqué de pouvoir rapprocher une personne.
Et la valeur devant un tribunal, ça pèse pas très lourd, une voix. Autant l'ADN, si ça tombe, là on a un nom, on a quelque chose, mais une voix, ça va pas peser très lourd, non ?
Alors, il y a ça, mais après, il faut pas oublier aussi qu'on travaille, on va dire, enfin les enquêteurs travaillent à charge et à décharge, donc on pourrait très bien imaginer que l'objectif, forcément, c'est de rapprocher une personne donc dans l'entourage de l'affaire du petit Grégory, mais on peut aussi peut-être écarter certaines personnes. Donc ça peut être aussi extrêmement important. Si aujourd'hui, on n'est pas capable de rapprocher, peut-être qu'on arrive à écarter des personnes de l'enquête.
Catherine Tardoux, ce corbeau, il y a eu plein d'hypothèses. Il y a eu plein de gens qui ont été soupçonnés, voire accusés d'être le corbeau.
Alors, je crois qu'il y avait plusieurs corbeaux. Ce qui me semble, moi, je suis toujours très prudente, c'est que tout le monde dans la famille Villemain élargie a été à un moment ou à un autre a été le corbeau. C'est-à-dire que je pense que tout le monde se donnait des coups de fil. C'est mon opinion. Voilà.
Pourquoi ?
Parce que il y avait des haines, des jalousies, on a raconté un petit peu tout et n'importe quoi, mais quand même il y avait une grosse jalousie vis-à-vis de Jean-Marie Villemain, qui était le garçon qui avait réussi. Il était contremaître, il avait acheté un salon en cuir. Vous voyez, donc Et puis il y avait des histoires de famille, des secrets de famille qui remontent à des années et des années. Et tout ça a fait qu'il y avait des espèces de haine recuite qui circulait dans cette famille.
Vous qui connaissez bien les lieux pour y avoir été, vous qui connaissez les différents protagonistes, est-ce que le fait de relancer des enquêtes, à un moment où les protagonistes arrivent, ce n'est pas le faire offense, mais plutôt en fin de vie, peut délier des langues
Écoutez, si ces gens-là se sont tus pendant 40 ans, je ne vois pas pourquoi ils se mettraient à parler soudain. Ça m'étonnerait beaucoup. Et il faut quand même aussi se rendre compte que les personnes les plus âgées, elles sont disparues. Les parents de Jean-Marie Villemain sont morts tous les deux. Donc, et je pense, Jackie, je crois, le frère de Jean-Marie Villemain, est mort. Donc il y a beaucoup de gens qui ne sont plus là. Donc, alors, moi, je pensais... J'ai pensé à un moment donné que peut-être que la mère de Jean-Marie Villemain avait une idée de ce qui s'était passé. Mais elle est partie sans rien dire.
Vous croyez qu'on peut encore savoir ?
Je l'espère. Croire, c'est très optimiste.
L'espérer, et on a la science pour ça. Merci beaucoup, Sébastien Aguilar, d'être venu nous éclairer sur toutes ces analyses qui vont être faites. C'est beaucoup plus clair. Merci, Catherine Tardreau, d'être venue sur le plateau d'Affaires Suivantes.